This meeting is being recorded.
Bonjour Elie Cavigno, bienvenue à Radio Economica ce jeudi matin.
Bonjour
Bonjour.
Catherine.
Voilà donc Radio Economica, la radio de la DG Traduction, le multilinguisme au service de la promotion des politiques culturelles. Et vous aviez souhaité nous parler d'un sujet original. Vous êtes coordinateur, enfin vous êtes comment ça s'appelle, un conseiller auprès du coordinateur européen du contre-terrorisme au Conseil européen, Monsieur Gilles de Kerchove. Et nous avons beaucoup parlé de crise sanitaire, de Covid récemment, mais vous vouliez attirer l'attention des auditeurs de Radio Economica sur une réalité peu connue, qui est le trafic d'œuvres d'art. En quoi, me permets-je de vous demander, la protection du patrimoine culturel mondial est-elle un sujet prioritaire au niveau européen? Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Alors, tout à fait. C'est parce qu'il ne s'agit pas que de culture, Catherine. Il s'agit ici de trafic de biens culturels, trafic d'œuvres d'art. Donc, nous sommes dans le domaine non seulement du pillage culturel, mais aussi du vol d'œuvres d'art et donc de la criminalité organisée. Et aussi du financement du terrorisme. Ce trafic d'œuvres d'art qui concerne beaucoup d'argent, des sommes très importantes, est en pleine expansion depuis des années et est un angle mort de l'action de beaucoup d'États, de beaucoup d'institutions internationales. Et c'est pour une prise de conscience que nous nous engageons avec Gilles de Kerchove, le coordinateur pour la lutte antiterroriste. Le trafic est en pleine expansion. Ça veut dire que, par exemple, en Asie, Interpol a signalé dans son rapport 2018 une multiplication des saisies par 9. On a une augmentation de 900% de saisies en Asie qui sont liées au trafic de biens culturels. En Afrique, on a une multiplication par 3, et je vous parle de cela, de chiffres hors Irak, hors Afghanistan, puisque l'Irak et l'Afghanistan, qui sont parmi les pays les plus pillés au monde, n'ont pas pu envoyer de chiffres à Interpol les dernières années, par manque de moyens, par manque de capacités. Mais nous voyons, nous constatons en Europe, aux États-Unis, là où il y a un marché de l'art, que des pièces commencent à arriver de plus en plus en provenance de ces régions.
Alors, vous avez mentionné plusieurs pays, donc toujours des pays en guerre où l'État est au moins temporairement très, très affaibli et donc plus en mesure d'assurer la sécurité des biens publics. Mais au fond, ces œuvres d'art, de quoi on parle en particulier, enfin, est-ce que vous avez des exemples? Vous nous avez fait parvenir quelques articles où on voit bien que les œuvres d'art égyptiennes, notamment les antiquités égyptiennes, sont parmi les cibles du trafic que vous évoquez, le Moyen-Orient. Mais est-ce que vous pourriez un petit peu, je ne crois pas qu'il s'agit uniquement des momies dans ce trafic.
Non, vous avez en réalité aujourd'hui, Catherine, tous les pays du monde sont source, transit et destination. Alors, je sais bien qu'on a un schéma selon lequel on aurait des pays du Moyen-Orient qui seraient surtout pillés pour des pièces qui seraient vendues en Occident, mais c'est une image partielle de la chose, du problème. La réalité est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un pays qui ne soit pas à la fois source, transit et destination. Je dis ça parce que vous avez aussi des États européens qui sont pillés, les églises, les chantiers archéologiques, les musées. On a un musée très connu qui a été cambriolé aux Pays-Bas au moment de la crise du corona, où un Van Gogh a été volé. Mais nous, comme nous traitons beaucoup de la lutte antiterroriste, nous abordons cela à travers un prisme particulier qui est celui donc de la lutte contre le financement du terrorisme, mais aussi contre l'idéologie terroriste, puisque le programme des terroristes était de détruire, mais aussi de piller. Daesh avait une unité spécialement consacrée au pillage des biens culturels. au sein de son département financement. Donc ça montre bien l'importance qu'accordait cette organisation terroriste au pillage des biens culturels. L'autre unité, c'était l'unité pétrole. Donc ça peut donner une idée de l'importance qu'ils y attachaient. Alors qu'est-ce qui est pillé aujourd'hui en termes de catégorie? C'est les musées, toujours, mais le phénomène de plus en plus marquant, c'est le pillage des chantiers archéologiques par des organisations criminelles, par des organisations terroristes. Et on a au bout de la chaîne, de manière surprenante, des musées, des collectionneurs prestigieux en Europe, aux États-Unis, qui peuvent se retrouver à acheter ces objets. Alors, vous avez montré dans le PowerPoint précédent l'affaire du démantèlement d'un réseau international entre l'Égypte et les États-Unis, qui passait par la France. Alors, selon la presse, par la maison Pierre Berger, les Américains, c'est-à-dire la police de New York, a saisi il y a 2 ans une momie au Metropolitan Museum de New York, une momie en or qui était exposée dans ce musée depuis quelques années. Il s'est avéré que cette pièce avait été en réalité volée en Égypte récemment, c'est-à-dire en 2011, par des pilleurs qui ont exporté cette pièce en Europe, puis aux États-Unis. Donc, cette affaire a mené déjà au rapatriement en Égypte, une fois que l'objet a été saisi, rapatriement de l'objet de la momie en or en Égypte. Deuxièmement, la police française a arrêté il y a quelques jours plusieurs personnes. Deux ont été mises en examen. L'enquête se poursuit. Et on a affaire ici manifestement à un réseau international impliquant des pilleurs, impliquant des trafiquants, impliquant des gens en aval pour acheter ces objets et pour les blanchir manifestement, c'est-à-dire pour fabriquer de faux papiers. Alors on avait, au-delà de l'affaire de cette momie, on a beaucoup d'autres objets qui sont suspectés d'avoir été trafiqués. L'enquête porte sur un trafic qui, selon les informations que j'ai, concernerait des dizaines, voire des centaines de millions de dollars. Donc, nous sommes sur des sommes importantes, sur un trafic qui est organisé et sur un trafic qui mélange à la fois les gens qui sont parmi les, j'ai envie de dire, les criminels habituels, hein, les pilleurs, les terroristes, et puis d'autre part, en bout de chaîne, des gens qui sont plutôt des gens proches de vous et moi, qui peuvent être des directeurs de musées, des conservateurs, des gens considérés en général comme respectables, des galeristes. Le problème du marché de l'art est qu'il est, j'ai envie de dire, gris. C'est pas blanc ou noir. Il y a un marché légal qui est parfaitement légal et qui ne pose pas problème, mais vous avez un marché qui peut être illégal. La spécificité de ce trafic, qui brasse beaucoup d'argent, c'est que la même pièce peut être légale et illégale. La drogue, nous savons qu'elle est illégale, donc c'est plus facile pour la police de la saisir quand on saisit de la drogue. Quand on voit un objet d'art dans un aéroport, quand la douane a des suspicions sur des statuettes qu'elle peut voir dans une valise, il faut vérifier si l'objet est légal ou pas. Et ça, c'est pas l'objet en lui-même qui vous le dit, mais c'est plutôt la date d'introduction en Europe ou la date d'exportation de l'objet, pour être plus précis. Et en gros, on considère que la convention UNESCO est le point charnière, si vous voulez, de 1970. On considère que ce qui était sorti avant cette convention est un objet légal, et ce qui a été sorti avant cette convention est légal, et ce qui a été sorti après est illégal. Or, comment savoir quand on a par exemple des faux papiers, comment savoir, comment vérifier la véracité de ces papiers, comment savoir si un objet est légal ou pas, comment savoir si un objet à une provenance correcte, sachant que d'ailleurs la plupart des objets archéologiques vendus n'ont même pas de papier. Alors, vous avez une étude aussi publiée récemment en Allemagne, c'est le projet Illicide, fait en coopération avec l'UNESCO, qui indique que sur le marché allemand, 98% des pièces vendues n'ont pas de provenance clairement indiquée. Donc, on aurait seulement 2% d'objets antiques qui en vente sur le marché allemand qui seraient dotés d'une provenance clairement traçable.
Donc c'est
Mais c'est un
inquiétant.
problème, c'est inquiétant, c'est un problème qui concerne bah, pas seulement l'Allemagne, hein, qui concerne également tous les pays européens et tous les pays de marché en réalité. Et évidemment, là où il y a de l'argent, là où il y a du marché, il y a un risque de trafic. Alors c'est un trafic qui est poussé par la, qui est tiré par la demande, comme la drogue, et ça fait donc sens d'agir au niveau de la demande. Je sais bien qu'on entend souvent que il faut agir au niveau de la source, c'est-à-dire au niveau du pillage. Au niveau, mais ce qu'il y a, c'est que c'est évidemment très difficile de surveiller. Dans des pays comme la Syrie, l'Irak, le Yémen, l'Afghanistan, des milliers de chantiers archéologiques, alors que ces pays sont soit en guerre, soit n'ont pas assez de moyens. Et alors même que finalement, la demande en Europe est, est peut-être paradoxalement plus facile à saisir, puisque bon, vous avez des. Un nombre infini de chantiers archéologiques. Vous avez un nombre de pilleurs qui, lui, est bon, difficile à connaître. Mais après, vous avez des trafiquants. Et là, vous avez quelques réseaux. Vous avez un nombre de réseaux qui est quand même limité. Et ensuite, vous avez des marchands. Vous avez des sites Internet qui sont quand même traçables. Vous avez des marchands qui ont quand même des galeries physiques, on n'en a pas des centaines de milliers, on en a quelques-uns, et vous avez des sites internet qui là aussi peuvent être traçables en coopérant avec les plateformes, etc. Vous avez des maisons de vente hein, qui coopèrent parfaitement, d'autres qui coopèrent moins, d'autres qui coopèrent pas du tout. Mais donc, ça fait sens d'agir au niveau de la demande. Je vous entends pas.
Oui, ce que je voulais dire, parmi les documents que vous m'avez envoyés, on se rend compte que n'importe quoi peut faire l'objet de ces trafics. On ne parle pas simplement de momies ou de sarcophages en or, on parle même de pierres, on parle même de livres. Je reviens un petit peu en arrière sur le caractère protéiforme. N'importe quoi peut faire l'objet d'un pillage, et on assiste notamment sur retrace. La carte des failles géopolitiques autour de l'Europe, des endroits comme le Sahel, où vous nous indiquez qu'il y a un accroissement spectaculaire et un véritable vandalisme dont peut-être on prend conscience aujourd'hui, ou peut-être quand même aussi qui est un phénomène récent. Qu'est-ce qui se passe par exemple au Sahel? Je ne sais pas très loin de chez nous.
Ben, au Sahel comme ailleurs, vous avez un trafic qui profite de bandes organisées, de bandes terroristes, qui non seulement détruisent hein, les sites, mais font surtout et avant tout du trafic. Vous avez eu évidemment de la destruction de manuscrits de Timbuktu, mais vous avez aussi beaucoup, surtout eu du trafic. Et nous avons donc le même problème qu'ailleurs, qui est la destruction, oui, mais aussi beaucoup de trafic, parce que les criminels, les terroristes veulent quand même générer de l'argent. Donc la question est comment est-ce qu'on peut, au Sahel comme ailleurs, aider les policiers, les douaniers à lutter contre ce trafic. Il s'agit ici donc quand même d'objets qui font partie de leur identité, hein, quand on parle de Timbuktu ou d'ailleurs. Donc ce sont des régions dans lesquelles, que ce soit au Sahel ou au Proche-Orient, au Moyen-Orient ou ailleurs, dans lesquelles l'Union européenne est engagée pour stabiliser ces régions. Nous avons, nous envoyons des soldats, des policiers pour aider ces pays, pour coopérer avec eux. Mais c'est important que pour compléter cette action, donc nous faisions ce que nous faisons actuellement d'ailleurs, c'est de les aider à lutter contre le trafic de biens culturels chez eux, mais aussi en essayant de le faire chez nous. C'est un réseau international et qui donc qui le trafic et qui requiert une coopération elle aussi internationale.
Voilà. Alors, pour assurer une traçabilité qui n'existait pas, si j'ai bien compris, il y avait même un cadre, d'après ce que j'ai compris, juridique qui n'existe pas véritablement. Il y a un effort de coordination entre des instances européennes, mais aussi des Nations Unies, qui sont les acteurs qui se mobilisent au niveau international pour coordonner les efforts et
Alors, le problème a été déjà reconnu hein, par les Nations Unies, par le Conseil de sécurité. Vous avez cinq résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui évoquent le risque de financement du terrorisme par le trafic de biens culturels. Donc, au niveau de la reconnaissance du problème, ça, il n'y a pas, c'est réglé. Au niveau de l'action. Contre le trafic. Alors, nous avons ceux qui sont en première ligne, selon moi, c'est d'abord Interpol et l'Organisation mondiale des douanes, mais donc c'est-à-dire les policiers et les douaniers hein, au niveau des États. Et eux, ils essaient de coopérer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour prendre le problème de manière simple, quand vous avez un objet qui est pillé ou qui est volé et qui va être vendu potentiellement en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs, ce qu'il faut aux policiers français, belges, allemands ou autres, c'est une photo de l'objet. Idéalement, il faudrait avoir dans la base de données d'Interpol, qui est basée à Lyon, Interpol a une base de données d'objets pillés, d'objets volés. Cette base doit être alimentée par les pays sources, par des photos, par des objets. Donc, quand un objet est pillé en Irak, idéalement, il faudrait que la police irakienne envoie à Interpol une photo de qualité dotée d'une description disant cet objet a été volé, ce qui fait qu'Interpol peut mettre cet objet, cette photo dans sa base de données. Et ainsi, si l'objet est découvert un jour dans une vente aux enchères ou dans un musée ou ailleurs, on pourra restituer cet objet à l'Irak. Alors ça, c'est évidemment le cas idéal. Mais alors vous direz que c'est pas facile, mais on peut faire beaucoup pour améliorer l'alimentation de la base de données d'Interpol par les pays sources. On peut aussi faire davantage pour améliorer de manière informatique hein, le système de reconnaissance des objets. Nous travaillons aujourd'hui en matière de la recherche pour pouvoir identifier, par exemple, sur Internet, des objets volés, pour avoir du web crawling, c'est-à-dire pour pouvoir avoir, grâce à l'intelligence artificielle, une reconnaissance automatique d'objets qui seraient volés. De la même manière, vous avez aussi donc de la coopération internationale entre les équipes spécialisées, puisqu'il faut des polices spécialisées pour cela, entre les polices européennes et les polices des pays sources. Donc nous avons organisé des séminaires entre l'Union européenne et l'Irak, entre l'Union européenne et le Liban. Et enfin, nous coopérons avec les plateformes de vente sur Internet. Je pourrais en parler aussi tout à l'heure. Avec Facebook notamment, puisque je vois que vous avez montré ce slide. Facebook vient de prendre une décision très importante qui est d'interdire explicitement dans ses standards de référence la vente d'antiquités. Au même titre que Facebook interdit la vente de drogue et la vente d'armes. Donc c'est quelque chose de très important qui vient d'être fait et qu'il faudra bien sûr maintenant mettre en œuvre. Hein. C'est une chose d'interdire. Mais maintenant, il faudra aussi avoir des gens qui puissent regarder ce qui se passe sur un Facebook et sur d'autres plateformes, évidemment, et qui puissent alerter ces plateformes sur ce qui s'y trouve et sur la nécessité d'agir et de préserver les preuves aussi pour que des actions judiciaires puissent être mises en œuvre.
Oui, tout à fait. Alors, en dehors donc des travaux spécialisés, utilisation de l'intelligence artificielle, numérisation des œuvres d'art, ça suppose quand même une capacité dans les pays. Est-ce que vous vous adressez aussi à toute cette population parfois très isolée et très fragile, qui assure la continuité d'une préservation des musées, des objets d'art dans les pays en question. On voit parfois, on entend des histoires concernant des conservateurs, qui font un petit inventaire, qui essaient de garder la trace, qui éventuellement, en pleine guerre, essaient de sauvegarder l'essentiel. Est-ce que vous arrivez à aussi cibler ces populations-là, ces alliés qui sont un peu en situation précaire et fragile. C'est une question que je me pose parce que on dit souvent la culture, c'est un peu toujours le parent pauvre. Et on vous remercie d'attirer notre attention un peu sur ces dimensions du point de vue de la criminalité. Mais ces personnels-là, est-ce que vous arrivez à les aider, à les former, à leur donner des moyens?
Alors, c'est une très bonne question, parce que je viens de parler de registre d'objets volés à Interpol, mais évidemment, ce registre ne fait sens que si vous avez, dans les pays concernés, des inventaires culturels déjà existants de qualité. Pour être clair, quand on veut savoir ce qui a été volé, il faut déjà savoir ce qu'on a en stock. Et pour savoir ce qu'on a en stock dans les musées, dans les chantiers archéologiques, sur les chantiers de fouilles, ce qui a été excavé, disons, il faut des inventaires. Alors, c'est vrai que on est actuellement dans une phase d'identification, de cartographie de pays prioritaires avec lesquels on pourrait coopérer. C'est évidemment au pays hein, de le faire. C'est un domaine aussi assez sensible, hein, puisqu'on parle ici de trésors, de patrimoine national. Donc, ce sont les pays qui veulent le faire eux-mêmes. Mais je pense que oui, avec les organisations internationales, l'UNESCO, etc., beaucoup de choses peuvent être faites pour justement aider ces pays à inventorier leurs trésors et à avoir idéalement une base de données qui soit nationale. Alors c'est un problème hein, qui se pose dans les pays sources hors d'Europe, mais c'est une question qui se pose aussi en Europe, hein, d'avoir une base de données nationale de tout ce qu'il y a dans les musées. On n'a pas toujours hein, ces bases de données nationales. Souvent, on a des musées hein, qui énumérisent leurs objets. Chacun de leur côté, j'ai envie de dire. Mais on pourrait avancer peut-être davantage hein, sur les questions de peut-être d'interopérabilité entre les bases de données de différents musées, afin qu'on puisse savoir, concrètement, un douanier a besoin de savoir en un clic où se trouvait un objet qu'il trouve à la douane à Roissy pour savoir si il était dans un musée. À Tombouctou ou à Damas ou à Bagdad. Et pour ça, on a besoin de bases de données qui soient bien connectées, interopérables. Mais là aussi, nous sommes vraiment en train d'avancer beaucoup grâce à l'informatique, grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux nouvelles technologies. Des applications sont en train d'être développées. Et je pense qu'on aura des résultats positifs à annoncer dans ce sens. Il y a aussi un autre domaine dans lequel on avance beaucoup, c'est celui des nanotechnologies, afin d'avoir un marquage des objets. Grâce aux nanotechnologies, on peut aujourd'hui marquer des objets sans les abîmer, ou sans les abîmer trop. Hein. C'est évidemment quelque chose d'invisible à l'œil nu, et qui permet évidemment, donc si un objet marqué arrive en Europe, ça permettrait de l'analyser et de voir s'il était présent dans un musée ou sur un chantier de fouilles récemment. Donc c'est là aussi une piste très intéressante. On n'avait pas ce marquage à l'époque. Donc après, il faut voir si on avance sur du marquage chimique ou sur du marquage nano. Mais en tout cas, il y a des nouvelles technologies qui sont porteuses aujourd'hui de beaucoup d'espoir, j'ai envie de dire, pour lutter contre ce trafic.
Donc j'ai entendu à travers ces positions, vous avez quand même, je crois, laissé comprendre qu'il n'y a pas actuellement une base de données européenne des œuvres d'art présentes dans les musées, les galeries et ailleurs en Europe. Ça n'existe pas encore. Ce qu'on a, c'est des bases nationales qui sont en voie de constitution, parfois très avancée, mais l'interopérabilité de ces bases n'est pas encore, c'est encore un chantier à venir, quoi.
Oui, alors là, on sort un petit peu de mon champ de compétences, mais comment dire, de manière générale, plus on a de bases et plus elles sont interconnectées, mieux c'est pour aider la police à faire son travail. Le plus important, c'est évidemment la numérisation. Après, bon, j'ai envie de dire, qu'importe la base, du moment que l'objet est numérisé, et selon des standards, hein, idéalement, donc il faudrait que ça soit fait selon les standards du Conseil international des musées. On a une norme qui s'appelle le Standard Object ID, qui est une norme de prise de photos et de description d'un objet. Donc ça aussi, ça aide les douaniers, les policiers, les marchands d'art aussi, les commissaires-priseurs à faire leur travail. Alors, au-delà de l'informatique, vous avez aussi pour ce qui est du commerce, je pense, oui, les questions de standardisation de papier, tout ce qui pourrait harmoniser les documents aiderait aussi les policiers, les douaniers, les marchands d'art à se concentrer davantage sur des questions non bureaucratiques et sur la lutte contre le trafic. Parce que chaque pays a a parfois un modèle d'exportation différent. Donc, on peut faire davantage pour renforcer voilà, la standardisation, la description des objets, la numérisation et le marquage.
Oui, contre un petit peu la marchandisation de l'art et notamment des biens culturels venus d'ailleurs. Vous nous avez par ailleurs signalé l'existence d'un prix qui s'appelle le prix Giovanni Falcone. Vous nous rappellerez d'ailleurs, pour ceux de nos auditeurs qui ne seraient pas conscients de l'identité de ce personnage qui a marqué déjà l'histoire européenne. Il existe un prix Giovanni Falcone pour la justice, et vous avez remporté ce prix sur la question du travail, donc de la lutte contre le trafic des biens culturels. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que c'est, qui était Monsieur Falcone, et qu'est-ce que c'est ce prix, et pourquoi ça a été créé au fond?
Oui, je viens de recevoir le prix Giovanni Falcone pour la justice.
Félicitations.
Merci beaucoup, Catherine. Donc, Giovanni Falcone était un juge anti-mafia qui a été assassiné en 1992. Et un prix a été créé portant son nom pour récompenser les personnes qui s'engagent en matière de lutte contre la criminalité organisée et aussi contre le terrorisme. Donc je suis oui, lauréat de ce prix pour l'année 2020.
Donc
J'en suis
chaque
très
année,
content.
ben oui, félicitations. C'est une action. Bon, beaucoup de personnes hein, sont engagées dans ce travail contre la criminalité sous toutes ses formes. Et penser à la culture et à ce circuit un peu spécial, un peu inattendu, mais où la culture devient une marchandise, un objet spéculatif, un objet de piratage. Effectivement, nous rappelle l'essentiel et la possibilité peut-être même de collaborer avec des pays tiers de manière positive. Écoutez, on n'a certainement pas épuisé le sujet. Je pense que nos auditeurs, désormais, quand ils verront des objets d'art dans des galeries ailleurs, ici ou là, ou lors de leur voyage touristique, une fois qu'on sera passé à une nouvelle phase de notre vie quotidienne, feront attention. Et peut-être penseront à vous, en tout cas, et se diront que c'est peut-être pas si innocent que d'acheter une statue, sauf si elle est faite à Hong Kong. Voilà, un bon avertissement. Merci beaucoup. Je comprends que vous allez peut-être changer de fonction, et on est très heureux de vous avoir eu avant ce changement-là. Et beaucoup de chance pour la suite.
Merci Catherine. En effet, oui, je pense que c'est important que nos auditeurs soient conscients que lorsqu'ils vont faire des achats dans des quartiers, que ce soit à la place des Sablons ou ailleurs, il faut quand même être attentif à la provenance des objets. Un objet, normalement, doit avoir une provenance. Et donc, il faut être très attentif à cela.
Voilà. Merci infiniment. À une prochaine fois, on ne sait jamais.
Merci
Voilà.
bien. Au revoir, madame.
Au revoir.